BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h30 sur BFM Business. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse dans les experts. Avec aujourd'hui cette réunion à l'Elysée, Emmanuel Macron qui réunit du géant EDF au plombier chauffagiste du quartier. Il réunit le président, la filière électrique, l'équipe de France de l'électricité. Aujourd'hui à l'Elysée, 200 entreprises pour faire passer la part de la consommation finale d'énergie électrique de 27 à 38% d'ici 2035. Sauf que, voilà, tout ça va coûter cher. 70 milliards par an à horizon 2030, selon les calculs du cabinet de conseil Asterès. Alors, qui va payer? Où se situe la France dans la course à l'électrification? Fait-on mieux ou moins bien que nos voisins? Ce sera le premier thème des experts ce matin. Et puis, dans le reste de l'actualité économique, l'encadrement des loyers qui revient dans le viseur. L'expérimentation s'arrête dans 6 mois pile. Et une note de l'Institut des politiques publiques estime que le dispositif est peu efficace, coûteux et même nocif à long terme. Alors, faut-il tourner la page de l'encadrement des loyers? Ce sera le deuxième débat ce matin. Et puis, on parlera aussi de shrinkflation. Milka a été condamné en Allemagne pour avoir réduit les quantités, sans le dire, de ses produits. Alors, après la greedflation, les industriels sont-ils redevenus les suspects idéaux de l'inflation? Ce sera le troisième débat des experts ce matin. Et puis, cette question enfin qui hante désormais toute l'Europe, comment résister aux surcapacités chinoises? Un séminaire du Collège des commissaires de la Commission européenne se tiendra en fin de semaine. On verra ce qu'en pensent aussi mes invités. Voilà pour le programme, il est 9h passé de 32 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business, vous y êtes bien, c'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir pour l'instant sur le plateau Emmanuel Combes. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Raphaël.
Professeur
bonjour
à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Face à vous, Olivier Luanti.
Bonjour Olivier.
Professeur au CNAM, auteur de Réindustrialiser le défi d'une génération. Et d'ici quelques minutes arrivera Karine Rouvier, PDG d'Europe Amiante et Domaine Léo. Karine qui est pour l'instant bloquée dans les bouchons. C'est les aléas du direct. Les amis, je voulais qu'on commence par l'électrification. Ce grand raout ce matin à l'Elysée, 200 entreprises de la filière électrique accueillies par le président de la République. Il fait un peu la méthode Choose France, hein. On a un peu de partout dans la cour de l'Elysée des objets électrifiés. Bon, moi ce que je voudrais qu'on voit ce matin ensemble, c'est si la France, où se place la France dans le concert européen de l'électrification, puisque c'est toute l'Europe qui doit s'électrifier. Olivier, vous êtes le grand spécialiste quand même de l'industrie en France. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? D'abord, est-ce qu'on est en avance, en retard ou en milieu de peloton européen en termes d'électrification? Électrification des usages.
Alors, on est un petit peu mieux que la moyenne européenne.
Ah,
c'est déjà
bien,
pas mal.
Ça fait du bien.
Mais on n'est pas du tout dans les leaders. Et c'est une véritable interrogation qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a pu faire, puisque notre mix énergétique, par exemple, est très proche de celui de la Suède, oui, avec du nucléaire et de l'hydroélectrique, et nous ne sommes absolument pas aux performances, au taux de couverture d'électrification qu'a la Suède, ce qui doit nous poser un certain nombre de questions sur lesquelles on va revenir, mais qui nous montre aussi qu'on a de belles marges de progrès. Très souvent, ce ne sont pas des sujets technologiques. J'insiste, ce ne sont pas des sujets technologiques. Les technologies d'électrification existent.
Sont connues.
Sont connues dans pratiquement tous les usages. Alors, il y a certains où c'est plus récent. La mobilité individuelle, c'est-à-dire la voiture électrique, c'est quelque chose, oui, qui est plus récent sur le marché. Mais notamment dans tout le champ de l'usage de l'énergie pour l'industrie ou pour le chauffage du bâtiment, les technologies sont connues. Elles ne sont pas diffusées parce qu'il y a un problème de modèle économique. Oui. Aussi simplement que ça.
Alors on va y venir, hein, sur les pompes à chaleur, c'est assez intéressant ce
plus
qui se passe.
Non, plus peut-être d'abord, plus Emmanuel peut-être des effets d'excès d'inertie. C'est-à-dire, j'ai envie de passer à la voiture électrique. Moi, j'entends ça autour de moi, hein. Mais j'attends que tout le monde passe. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est fiable?
Ah,
et on voit bien la courbe en S.
C'est une question d'habitus.
Ah, c'est toujours la courbe en S en économie. Hein, vous
peur,
avez,
ouais.
Et puis à un moment, vous avez le point d'inflexion qui fait que ça décolle.
Ça si dépend pas du prix, surtout.
C'est lié aussi au prix.
Ah,
regarde, oui, dans les pays nordiques, ils sont à combien de taux d'équipement en voiture électrique?
Ah bah, c'est
ils sont au-dessus de
90.
En tout cas,
un autre là.
En tout cas, il y a un sujet sur l'adoption par le français de la voiture électrique pour rejoindre Olivier en termes d'usage. Là, on est clairement en retard. Ouais. On est peut-être moins sur les bornes. Il y a peut-être aussi cette histoire de...
Bah, il y a les infrastructures. C'est un peu ça le sujet des annonces aujourd'hui.
Bah oui,
vous avez
fait la poule, hein,
Lidl, Electra, qui vont annoncer beaucoup d'investissements sur les bornes.
Bah, il faut regarder quand même un peu les segments. C'est-à-dire le consommateur, oui, peut avoir cette crainte. C'est nous, tous les jours, dans nos usages, avec un effet d'inertie, avec des craintes par rapport à la présence de l'infrastructure. Si on passe sur les deux autres secteurs de consommation d'énergie, qui sont le bâtiment et l'industrie, et globalement en France, c'est à peu près un tiers, hein. Et ben dans ces cas-là, on est sur normalement des acteurs avec une rationalité économique. Ce frein à l'adoption devrait être moins émotionnel que dans les consommateurs que nous sommes. Oui. Et on voit quand même pas mal de retard. Alors, si je prends par exemple l'industrie sur le sujet de l'électrification, plus globalement sur l'efficacité énergétique, la première étape qui n'est pas finie en France, c'est celle d'avoir une forme de sobriété énergétique. Il y a plein d'usages d'énergie encore inutiles dans nos usines.
On gâche trop d'énergie.
On gâche de l'énergie encore. J'ai l'habitude de le dire à mes étudiants, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.
La meilleure
pas.
Économie, c'est effectivement l'énergie qu'on ne consomme pas.
Ensuite, il y a une deuxième étape avant d'arriver à l'électrification, qui est celle de la récupération de la chaleur fatale. Quand vous avez un compresseur...
De la chaleur
fatale.
Fatale.
En fait, on chauffe les petits oiseaux.
La chaleur fatale.
Dire, par exemple, vous avez un compresseur, et ben, un compresseur, ça chauffe, et vous le refroidissez avec un ventilateur qui émet cette chaleur supplémentaire dans l'air. Récupérer cette chaleur est un potentiel énorme. Et là, le modèle économique fonctionne en général avec un peu d'aide. C'est-à-dire que les entreprises arrivent à rentrer dans leurs abacs financières. Est-ce que le projet de faire cette récupération est rentable? À condition d'avoir un petit peu de CO2E. Un petit peu de fond chaleur.
Oui, enfin, c'est pas ce qui manque en France.
Alors, pour l'instant, ça tient, et donc ça se fait. Ouais. Et puis, la troisième étape, ce sera l'électrification, et dans la plupart des cas aujourd'hui, ou bien la recherche de substitution avec de la biomasse, mais la biomasse sera limitée au total, et ben, dans l'électrification, aujourd'hui, le modèle économique existe rarement, en tous les cas, il n'est pas majoritaire. C'est-à-dire que ça coûte aux entreprises plus. Dans un environnement concurrentiel, des entreprises n'ont pas intérêt à passer à l'électrification tout de suite.
Bon, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, hein. Le cabinet Asterès de Nicolas Bouzou, invité régulier des experts, a chiffré le coût net de l'électrification, 70 milliards d'euros à horizon 2030. 80 milliards en brut, et puis ça rapporte une grosse dizaine de milliards, grosso modo. Donc ça veut dire quoi, là? Qui va payer la facture, Emmanuel Combes?
Tout le monde va payer, et notamment les consommateurs. Et pour revenir au sommet qui se joue aujourd'hui, là, en faveur de l'électrification, on peut qu'être d'accord et se réjouir de tout cela. Mais on ne raconte pas toute l'histoire. Enfin, l'histoire, c'est pas seulement des subventions. Oui, il va y avoir de la subvention, du leasing social, et tout ça est très bien, hein. En fait, on est vraiment dans une logique de demande. On va subventionner en fait le passage à l'électrification, ce qui on va peut-être y revenir avec Olivier, à mon avis une politique,
est-ce qu'il est sain
une
dans
politique
la
industrielle
que
qui n'est pas, pas complète
économique.
Parce qu'il n'y a pas de logique de filière, mais ça on va y revenir. Il n'y a pas de logique de filière, mais avant même d'en arriver là, moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on raconte pas toute l'histoire. Alors j'entends que le décideur politique n'est pas là pour raconter la vérité, sinon il ne serait pas élu. Enfin, la vérité vraie, c'est qu'il y a un tiers de la facture qui sera payée par vous et moi. C'est-à-dire quand vous payez votre facture d'électricité, vous payez le fameux TURP, hein, et le TURP, ça sert
le TURP,
à financer.
C'est le prix d'acheminement de l'électricité, c'est le coût du réseau, d'entretien du réseau.
Tension, réseau de transition. Et donc, à la fin, il faut quand même dire les choses. La transition sans coût, ça n'existe pas. Et je reviens un peu sur ce que disait Olivier. Pourquoi est-ce que les ménages ne basculent pas aussi? Je pense qu'il y a un problème en France de signal prix. Enfin, c'est toujours la même chose. À partir du moment où vous voulez pas donner le bon signal,
vous avez le sentiment.
Mais vous avez le sentiment que tout est question de subvention et d'aide. Je ne dis pas qu'il faut pas subventionner la transition, notamment à la voiture électrique pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Je pense que les aides soignantes, etc. Il va y avoir, je crois, un gros plan là-dessus. Mais attention, ça fait pas une politique industrielle. Et deux, ça donne le sentiment que, comme dirait l'autre, l'État paiera. Bah, en fait, non, l'État paiera pas. L'État paiera une partie et une autre partie sera supportée par les entreprises et enfin par vous et moi, c'est-à-dire les consommateurs. La transition, ça coûte cher. Ouais,
ça, c'est un message important. Hein. On nous a vendu la croissance verte, c'est-à-dire à la fois la capacité de décarboner notre économie et de faire de la compétitivité. Ça marche un temps sur le premier, notamment tiers que j'ai évoqué. Quand on consomme moins, on fait de la compétitivité et on fait de la décarbonation. Assez rapidement, cet exercice arrive à ses limites, et quand il faut aller plus loin sur la récupération de la chaleur fatale ou l'électrification qui est notre sujet aujourd'hui, dans ces cas-là, il y a des coûts supplémentaires. Encore une fois, avoir des ambitions environnementales, c'est mettre des contraintes sur notre système économique. Des contraintes engendrent des coûts. C'est pas qu'ils sont pas illégitimes, au contraire, ils sont sans doute très légitimes, mais il faut l'assumer jusqu'au bout.
Il faut le dire.
Ouais, en même temps, la facture, elle a déjà augmenté. Hein. Mais pardon, depuis la crise de 2022-2023, on a tous vu nos factures flamber. Est-ce que ça veut dire que ça va monter encore et encore? Et jusqu'où? Est-ce qu'on ne peut pas se projeter un petit peu?
Alors,
donner la visibilité aux Français.
Un grand sujet. À la fois, on a un prix de l'électricité qui est encore indicé sur le gaz. C'est ce qu'on avait vu de manière très très claire tous pendant la crise de l'Ukraine en 2022. Oui. Aujourd'hui, on a un deuxième phénomène, on pourrait se dire, ah, ça va se répéter avec la crise d'Hormuz. On a un deuxième phénomène, c'est qu'on a une surcapacité électrique temporaire, intermittente, et donc on a de temps en temps des prix négatifs. Donc ça donne un système qui est totalement illisible pour les consommateurs, même les consommateurs professionnels comme des entreprises ou des gestionnaires du bâtiment. Alors j'ai poussé là-dessus une idée qui va assez loin, parce qu'elle est contre les textes européens, ce qui m'arrive pas souvent, mais de dire aujourd'hui le marché électrique européen qui nous permet de nous alimenter dans cette électricité nécessaire pour l'électrification, il est très bien sur le court terme, il fait l'équilibre, il permet de faire de la solidarité européenne comme on l'a vu quand on a eu la crise des
on aurait eu trois semaines de blackout en 2023 si on n'avait pas eu le marché européen.
Exactement, mais il ne donne pas le signal long terme dont on a besoin pour l'électrification et pour l'investissement. Faut-il absolument que toute la production électrique en Europe aille dans ce marché? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une partie qui a une partie de marché avec toutes ses vertus, celle qu'on vient d'énoncer, et puis une partie plus régulée qui permet de mettre en place des politiques économiques, des politiques énergétiques, des politiques d'électrification? Pour l'électricité, j'avais recommandé de sortir 60 TWh de production électronucléaire du marché, c'est-à-dire 15 à 20% de la production nucléaire, exactement pour cet objectif, permettre aux entreprises de s'électrifier avec un prix régulé, visible.
Mais est-ce que c'est pas ce qui se passait, j'ai oublié là, je cherche la chronique, l'AREN, est-ce que c'est pas ce qui se passait
c'est
avec l'AREN à 45 euros?
Qui avait d'autres effets collatéraux qui l'a fait sombrer, mais il y avait un peu de ça dans l'AREN, on est un peu sur cette même logique.
Je vais revenir sur un point qu'a évoqué Olivier au début, le fait que les industriels et pas seulement les ménages hésitent à passer. Il y a un coût toujours de transition, un coût fixe d'ailleurs, il faut changer les équipements, etc. Je pense que parmi les facteurs, il y a non seulement le facteur coût, mais le facteur pérennité, incertitude. On est en 2026, il y a une élection dans un an. Qu'est-ce qui vous prouve que ce dispositif lancé aujourd'hui pour horizon 2030, hein, je crois, hein, sera pérenne? Donc, je suis à la place d'un industriel, je me dis, je suis pas sûr que ce truc soit gravé dans le marbre, je préfère être attentiste. Donc, il y a aussi une rationalité économique à l'industriel de se dire, je change pas. Qu'est-ce qui vous prouve que dans un an, on a quand même une échéance décisive, qu'est-ce qui prouve que tout ça ne sera pas remis en cause? Donc, il y a aussi une rationalité à être attentiste. On est sur du coût fixe, hein, c'est-à-dire qu'il faut changer parfois de technologie, tout ça n'est pas avec un effet d'irréversibilité. Une fois que j'ai changé, je suis prisonnier. Parce que l'effet d'aubaine que j'ai eu, on m'a promis des subventions ex ante pour me permettre de changer. Une fois que j'ai changé de technologie, on m'annonce que les subventions sont terminées à la faveur, par exemple, d'un changement de président, ce qui est une évidence, en tout cas de majorité. Oui. Et là, je me dis, bon, mais finalement, j'aurais peut-être dû attendre. Donc, l'attentisme est aussi un comportement rationnel quand on est dans un climat quand même hautement incertain politiquement.
Oui, évidemment. Je voulais qu'on parle des filières, Olivier. Par exemple, celle de la pompe à chaleur. Moi, je me demande si on n'est pas en train de rejouer le coup des panneaux solaires avec les Chinois.
Ah bah c'est évident. Alors oui, et c'est même encore pire, parce qu'au moins sur les pompes à chaleur, on avait une forme de leadership avec deux superbes ETI.
Atlantique, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Alors qu'en 2012-2014, déjà, l'Europe était en train d'essayer de grignoter des parts auprès des Chinois, mais il y avait déjà une domination chinoise sur le marché. Et qu'on a laissé se renforcer jusqu'à devenir une dépendance quasiment totale. Là, sur les pompes à chaleur, on avait un pari à gagner réellement. Si on regarde les cinq paris du Green Deal, que ce soit l'hydrogène, la pompe à chaleur, l'éolienne, le panneau photovoltaïque et il m'en manque un, c'était celui sur lequel on pouvait avoir une chance d'avoir une capacité européenne de production des équipements pour notre décarbonation en ayant la souveraineté. On est en train de la laisser filer. Là, j'avoue que moi, j'ai... Alors, c'est des décisions d'entreprises qui sont au capital. C'est des entreprises familiales, si on parle, par exemple, du groupe Atlantique qui fait l'actualité.
Qui vient d'annoncer... alors, c'était le numéro 1, là, le numéro 1 français de la pompe à chaleur, je le disais. Hein, 3 milliards de chiffre d'affaires, quand même. Hein, c'est pas une paille, qui vient d'être achetée par le groupe nippon-américain Palomarim.
Ces ventes étaient quand même très dépendantes à nouveau des subventions, des aides. Hein. Et je crois que son chiffre d'affaires a chuté l'année dernière, oui. Justement parce que moins d'aides égale.
Eh ben voilà,
moins,
en 2024, moins, effectivement.
Voyons, c'est un peu les limites d'une politique industrielle, eh oui. Parce que par la demande, une politique industrielle, c'est une politique
pérenne,
par le haut, c'est-à-dire une politique d'offre. Je crois pas qu'il y ait de grands programmes européens sur les pompes à chaleur.
Non.
Et donc, à nouveau, on va avoir la Bérézina panneau solaire. Là, on sera peut-être pas d'accord avec Olivier, c'est que moi, je pense qu'à partir du moment où on a perdu une bataille, alors, je sais pas si elle est vraiment perdue d'ailleurs, sur les pompes à chaleur, mais en tout cas, on l'a perdu sur les panneaux solaires. Je pense qu'il est vain, voire risqué, de vouloir combler un retard sur les panneaux solaires. Le coût du rattrapage...
Vous vous dites, allons-y, quoi. Tant pis, c'est racheté par les...
Non, mais le coût du rattrapage est tel que je ne vois pas tellement comment on peut y arriver. D'ailleurs, Atlantic, je ne sais pas exactement qui est l'investisseur. Je crois que c'est un investisseur nippon américain.
Oui.
J'ose espérer qu'on ne va pas retomber dans les débats à la Montebourg 2014 avec Dailymotion.
Évidemment.
Non, le ministre de l'économie a l'air d'être plus ouvert en disant on va voir quel est leur projet, notamment d'implantation en Europe. Mais attention, ne pas rejouer, une entreprise doit être à capitaux franco-français. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est...
On va nous dire que nos usines vont partir à l'étranger.
Est-ce que l'investisseur a un projet en France, avec des emplois en France et de la tech qui bénéficie à l'économie européenne? Mais attention à pas tomber dans une sorte de protectionnisme en disant la politique industrielle, c'est des entreprises françaises. Je sais pas d'ailleurs ce qu'est une entreprise française. Une entreprise, c'est une entreprise qui a un projet.
Capitaux français, qui a un siège social en France, qui a ses usines en France.
Pas seulement.
Et qui préserve l'emploi en France.
Pas seulement. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont très peu d'empreintes françaises. Vous prenez les leaders du CAC 40, elles ont surtout une empreinte mondiale. Ça n'empêche pas que ce sont des entreprises françaises
par leur ADN. Je pense que vous n'avez pas tout à fait le même avis. Et Jean-Marc Daniel qui vient nous rejoindre sur le plateau.
Eh bien, ça va être animé. Sur le premier point, est-ce qu'il faudra absolument protéger les pompes à chaleur? La réponse, j'en sais rien. Par contre, je suis convaincu qu'il faudra décider de ce qu'on a envie de protéger et de garder sur le sol européen. Aujourd'hui, cette liste n'existe pas. Est-ce qu'il y aura les pompes à chaleur dedans où on considère que ce combat est perdu comme il l'a été sur les panneaux photovoltaïques? C'est une vraie question qu'il est indispensable de se poser. Quels sont les combats qu'on veut faire? Et on ne pourra pas tout faire. Ça, c'est absolument certain. Et même le deuxième élément, c'est que je suis de plus en plus convaincu que si on veut mettre la souveraineté au cœur de notre projet de société, il faut que nos entreprises aient un ancrage territorial. Ça veut dire, certes, des sites de la technologie qui est ancrée dans le territoire, français ou européen, mais il y a aussi une véritable question qu'on ne peut pas éluder sur la détention du capital. C'est un sujet qui est un peu tabou aujourd'hui, mais je pense qu'on ne pourra pas l'éviter. Et il reboucle avec le fait de notre capacité à mobiliser l'épargne des Français et des Européens pour investir dans notre outil productif plutôt que de financer des bons du Trésor américain. Par exemple, et là on a une question un peu globale de comment est-ce qu'on finance notre économie, mais la détention du capital, l'ancrage territorial du capital est une question inéluctable.
On a 300 milliards de capitaux européens qui partent chaque année aux États-Unis. Vous me corrigez Jean-Marc Daniel
si je
me trompe, parce qu'il faut les rapatrier en Europe.
Que c'est pas assez qu'ils partent aux États-Unis. Je pense que tous ces capitaux doivent partir dans des endroits où il va y avoir de la croissance. Alors en partie aux États-Unis, la croissance mondiale elle va se faire, c'est une mes obsessions, c'est entre Abidjan et Mumbai que ça va se passer. Je trouve ça assez intéressant, c'est que nous sommes 25 ans après la déclaration de Serge Turuk. C'était au mois de juin 2001.
Sur la faiblesse. Des entreprises sans usine.
Sans usine. Et c'était ce qu'il y a de frappant, c'est que on a fait son procès, maintenant on l'a oublié, sauf que si on fait le bilan...
Il avait raison.
Il avait raison. Il avait parfaitement raison. Et le véritable enjeu pour... on l'a dit, Emmanuel l'a dit, c'est-à-dire une entreprise française, c'est quoi? Une entreprise européenne, c'est quoi? En revanche, les comptes extérieurs d'un pays, ça, on le sait. La balance des paiements courants, elle enregistre les entrées et les sorties, les flux de revenus et les placements d'épargne.
L'argent sonnant est trébuchant.
Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, l'Europe, c'est un des principaux endroits où il y a de l'épargne, avec l'Asie du Sud-Est, hein, avec plutôt l'Asie Chine-Japon. Et c'est un principal endroit où il y a des vieux. Donc, quand il y a de l'épargne et il y a des vieux, le véritable enjeu, c'est de placer cette épargne dans les endroits où il y a des jeunes. Et donc, les jeunes, ils sont en Inde, ils sont en Afrique. Le véritable enjeu, c'est de regarder la BRVM plutôt que de regarder, effectivement, ce qui se passe en France.
Mais c'est de mettre de la clim dans les EHPAD aussi. Hein. On a peut-être besoin de pompes à chaleur en France pour rafraîchir nos EHPAD.
C'est ce que disait Lénine. Lénine disait, le socialisme, c'est les soviets plus l'électricité. Et donc, les soviets, peut-être pas, mais en tout cas, la démocratie que normalement aurait dû incarner les soviets, retraites et l'électricité.
Oui. Et c'était l'armée et les aides sociales, on y arrive beaucoup.
Oui, oui, alors là, en revanche, c'est devenu l'armée et les aides sociales.
Aussi.
Oui.
Emmanuel Combe, puis Olivier.
Je voulais rebondir sur ce que disait Olivier, je partage son point de vue là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix. La question, c'est qui choisit.
Qui choisit, protéger.
Si on fait un peu d'économie politique, on s'aperçoit que les choix ne sont pas toujours des choix complètement démocratiques. Donc il y a quand même l'idée de... Et surtout, je pense que dans les critères de choix, les économistes devraient avoir leur mot à dire. Il me semble qu'un des critères de choix, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est l'écart à la frontière technologique. Quand vous êtes, pardon, complètement largué, faut arrêter le combat. Entre mettre un euro dans l'ordinateur quantique où la bataille, me semble-t-il, n'est pas jouée et on a des atouts, il faut toujours raisonner en coût d'opportunité, hein, et un euro dans un secteur dont on sait, je suppose, le photovoltaïque, où on est complètement en retard par rapport aux Chinois, il faut accepter un moment de dire, nous avons perdu la bataille, et ça n'est pas absolument, mauvais d'importer des panneaux photovoltaïques. Il faut choisir ses combats. Et moi, j'ai l'impression que, notamment en France, on aime bien le saupoudrage. La politique industrielle française, c'est on donne un peu à tout le monde, et à la fin, on n'a pas fait de véritable choix. Faire de la politique industrielle, c'est aussi, choisir ses combats. Choisir ses combats.
C'est un peu ce que nous dit Alter.
Moi, je pense que...
On y a un aspect, une dinguerie économique de dépenser 3 à 4 milliards de baisses de TVA dans la restauration pour avoir des master poulets en bas de chez soi qui importent des aliments de l'étranger alors qu'on devrait dépenser ces milliards sur l'électrification.
Je voudrais dire simplement, la seule chose avec laquelle je pourrais être d'accord, c'est qu'il faut choisir. Le seul élément, c'est que c'est pas... l'État qui va choisir, c'est le marché qui va choisir. Donc si on doit choisir, c'est le marché.
Bon, on a le droit d'avoir un État stratège aussi, Olivier.
On a le droit d'avoir aussi un État stratège, même si aujourd'hui je partage le sentiment qu'a donné Emmanuel, c'est-à-dire qu'on a affiché des priorités, on a fait beaucoup de saupoudrage. France 2030 nous en donne aussi l'illustration.
Il vaut mieux que l'État soit un bon stratège.
J'aimerais revenir, est-ce que Serge Turuc a eu raison? Vous, économiste, vous dites que oui, et je vous comprends. En termes de création de richesses et de création d'emplois globalement, nos grands économistes classiques, Adam Smith, David Ricardo, avaient raison, il n'y a pas de problème. Seulement, moi je trouve que dans vos équations ou dans votre façon de réfléchir, vous n'intégrez pas la souveraineté qu'on mettrait mal en équation, vous n'intégrez
les conséquences politiques de la désindustrialisation française.
Vous n'intégrez pas la cohésion sociale et territoriale, je reviens très souvent sur le territorial, revenons sur le social, c'est bien de créer des emplois liés à des plateformes, des Uber Eats, des Uber, etc. On a une paupérisation de la France qui nous pose un problème global, alors que si on avait gardé de l'industrie, on aurait créé de la valeur ajoutée ou des métiers à plus grande valeur ajoutée qui permettaient de redistribuer conforme à notre modèle social. Et vous ignorez l'empreinte environnementale. On a des ambitions environnementales en Europe qui font partie de notre projet de société. Ce n'est pas en déléguant notre pollution à des pays qui n'ont pas les mêmes ambitions qu'on sera en phase avec notre conscience et qu'on va plutôt vers un chemin d'hypocrisie globale. Ces trois éléments-là, vous ne les intégrez pas. C'est vrai qu'ils s'intègrent mal dans des équations économiques, mais ils sont essentiels à un projet politique.
Oui, alors sur la souveraineté, c'est le mot à la mode et distingué pour dire protectionnisme maintenant. La souveraineté, je rappelle, on parlait de Ricardo. Ricardo disait, écoutez, si on abandonne la production de blé, on va confier effectivement l'alimentation du Royaume-Uni aux grands producteurs de blé. Qui produit du blé? On est en 1820, il dit c'est les États-Unis et la France. Quels sont les deux pays avec lesquels l'Angleterre ne pourra jamais se réconcilier? Les États-Unis et la France. Et il dit pourtant, eh bien, je suis favorable au libre-échange parce qu'ils ne se mettront jamais d'accord. Le jour où les États-Unis voudront couper les exportations de blé vers nous, les Français seront là pour prendre le relais. Donc il faut diversifier. Ouais. Juste un exemple. Voilà.
Mettre tous ses œufs dans le même panier.
Voilà, un exemple très simple. Au moment de l'affaire des masques.
Et choisir ses partenaires.
Et choisir, au moment de l'affaire des masques, il y avait deux attitudes possibles. Il y avait le discours à la française, on va créer des filières en France. Et puis il y avait le discours de la présidence de l'Union européenne à l'époque, c'était la Croatie. Et la Croatie est allée signer un accord de libre-échange qui a été confirmé et conforté d'ailleurs il y a 6 mois de ça avec le Vietnam, en disant, puisque les Chinois sont en train d'effectivement mettre des conditions qui sont insupportables à la livraison de masques, on va s'approvisionner chez vous. Et maintenant, les masques, ils viennent de Chine et du Vietnam, mais ils ne viennent pas de France parce que ça n'a aucun avenir de faire de la production industrielle sur certains secteurs en France.
Emmanuel.
En fait, pour moi, le bon raisonnement, donc à la fois je suis d'accord avec Olivier et pas d'accord, c'est qu'est-ce qu'on sait faire le mieux? Si c'est de l'industrie, tant mieux. Et on a des secteurs industriels, pardon, Airbus, c'est de l'industrie. Hein.
Oui, oui.
Donc là, investissement à fond. Mais même envie de dire, il faut accélérer même notre avance.
On a des champions industriels.
Il faut accélérer notre avance, hein, puisque les Chinois, vous savez, maintenant, Comac se mettent à faire des avions long courrier.
On va y venir tout à l'heure.
Pour moi, le sujet, c'est pas industrie versus service. Hein. Je veux dire, les Pays-Bas, c'est un pays de service. Je crois savoir que le PIB par habitant est beaucoup plus élevé aux Pays-Bas qu'en France. La question, c'est qu'est-ce qui crée de la valeur, d'abord? Ça peut être du service ou de l'industrie. Moi, je suis agnostique. Et deux, qu'est-ce qu'on sait faire le mieux? Il y a un moment donné, quand on ne sait pas faire, il faut arrêter. Et moi, ça me fait peur en France. On pense souvent réindustrialisation. Moi, je suis plutôt favorable à la politique industrielle, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais la politique industrielle offensive pour conquérir des nouveaux avantages comparatifs. Et c'est là où je suis pas d'accord avec Jean-Marc. Pour le coup, je crois que l'État stratège, c'est celui qui dit à un moment donné, il y a quand même deux, trois secteurs, on les voit venir, hein, on les sent quand même venir, hein. L'IA, je pense que là, on l'a plus que senti venir, hein.
Oui.
La révolution quantique. Si on laisse le marché livrer à lui-même, peut-être que ça fonctionnera pas. Alors on fait des grands programmes européens, mais on fait pas les choses à moitié. On y va à fond. Mais c'est une politique de l'offre et pas une politique de subvention de la demande. C'est une politique européenne et c'est pas une politique franco-française. Et juste un tout petit mot par rapport à ce que disait Olivier sur la souveraineté. Pour moi, la souveraineté, c'est la dépendance choisie. L'indépendance, ça n'existe pas. La dépendance choisie, c'est-à-dire il faut être présent sur le bon maillon.
Il faut choisir ses partenaires.
Et pas seulement les partenaires, le bon maillon. Regardez les semi-conducteurs. Personne n'en parle. Pardon, TSMC sans ASML n'existe pas. C'est la seule entreprise qui est capable de fabriquer des machines de lithographie dans le monde. Elle a une part de marché de 95%. Alors quand on me dit on est dépendant de la planète pour la livraison de semi-conducteurs, oui, et en même temps, eux sont dépendants de nous. Donc première, c'est pas si simple. Et secondement, là je rejoins plutôt Olivier, on peut se mettre d'accord sur un minimum de souveraineté, c'est-à-dire voilà, on souhaite que X% de nos chips, de nos semi-conducteurs, soient fabriqués en Europe. C'est ce qui a été fait avec le Chips Act, hein, qui est de dire, on va inciter les étrangers. C'est ça qui est intéressant. Et là, on est très bien loin du débat capitalisme, capitaux français. On va demander à Samsung d'investir en Europe. C'est ça, finalement. Paradoxalement, la souveraineté, c'est attirer les étrangers sur notre sol européen. Et c'est pas chercher une solution franco-française avec un actionnaire français. Moi, je crois qu'il y a des bons actionnaires qui ont un projet, il y a des mauvais actionnaires. Il y a des actionnaires qui sont de pays alliés, il y a des actionnaires de pays dont on a
plus
hostiles. Ouais. Mais un actionnaire français n'est pas forcément la garantie d'un bon projet.
Ça, on est bien d'accord.
On est en train de...
Mine de rien, on a complètement traité le dernier sujet de l'émission. Ça tombe bien parce que on est super en retard. Comment se protéger des surcapacités chinoises? Il y a un séminaire du Collège des commissaires qui va se tenir le 29 mai en fin de semaine. Mais donc, on a traité la question.
Ah non,
je fais un tour très rapide avant la coupure pub. C'est être le meilleur.
Non,
sur certains points.
Là, moi, je vais continuer le propos d'Emmanuel en disant oui, il y a une partie où on est en retard et sur lesquelles ça sert à rien de faire une course. Surtout que la cible est mouvante, hein. Les Chinois vont pas rester à leur niveau technologique, ils vont le faire progresser. Donc, si vous courez derrière, vous allez vous épuiser, vous allez épuiser des moyens publics. Et là, l'une des solutions qui a été évoquée dans l'accélérateur industriel européen que je critique beaucoup, mais sur cette partie-là, je trouve qu'il y a des concepts intéressants, celui du transfert de technologie.
Oui.
Vous êtes intéressé par le marché européen, vous venez très bien, vous nous faites du transfert de techno, ça peut se matérialiser par des JV 50-50 qui finiront en 49-51, les Chinois nous ont appris ça par cœur, on n'a qu'à suivre le livre de l'industrialisation de la Chine. Mais voilà, typiquement, aujourd'hui, notre actif, c'est le marché européen qui reste un marché riche. On a un retard de technologie, ne gaspillons pas de l'argent public pour faire une course qu'on ne rattrapera jamais. Faisons du transfert de technologie et un peu de protectionnisme ou de souverainisme, je sais pas, sur une série de biens qu'on choisit parce qu'on les qualifie comme essentiels. Et tu as raison, il ne faut pas choisir une filière. Par exemple, dire qu'on choisit la filière des semi-conducteurs n'a pas de sens. Choisissons les maillons de la chaîne sur lesquels on peut verrouiller la filière.
Nous venons de créer un formidable consensus et de rapprocher positions d'Olivier Lancy. Jean-Marc sera le contributeur, mais on reviendra
opposé. Après mais quelle vision conservatrice actionnaire. C'est vraiment Lénine, hein. Soviets et l'électricité et les
semi-conducteurs. Absolument pas. Tu es en retour des années 90. Le monde a changé.
Je viens revenir sur...
Alors les débats reprendront après la coupure.
C'est la population.
Si Jean-Marc me laisse en placer une après la coupure publicité. On parlera shrinkflation, on parlera encadrement des loyers et puis on verra si on peut parler de surcapacité chinoise. Ne quittez pas, tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts avec une ambiance formidable sur le plateau entre Jean-Marc Daniel, Olivier Luanci et Emmanuel Combes. Ça débat fort ce matin. On va continuer sur le protectionnisme, Emmanuel, avec cette réunion du Collège des commissaires prévue, un séminaire en fin de semaine, le 29 mai, pour réfléchir aux voies et moyens de se protéger contre les surcapacités chinoises. Le programme précis, c'est quels sont les instruments d'une politique de défense commerciale plus affirmée et plus efficace. Est-ce qu'il faut du protectionnisme ?
La réponse est oui. Ça peut paraître étonnant pour un économiste qui se dit plutôt libéral, mais un ciblé, et surtout, et j'insiste là-dessus, c'est le plus important pour moi, dans le respect des règles de l'art. Qu'est-ce que j'appelle les respects des règles de l'art ? Il y a un truc qui s'appelle l'OMC, dont tout le monde dit qu'elle est morte. Elle n'est pas morte, elle existe. Il y a même un organe d'appel qui fonctionne, alternatif, dont les États-Unis ne font pas partie, mais la Chine fait partie. La Chine n'arrête pas de nous expliquer, depuis 20 ans, je veux jouer les règles de l'OMC. Il y a deux règles dans l'OMC qui sont absolument capitales, l'anti-dumping et l'anti-subvention. Si vous avez des surcapacités, si vous voulez vendre à l'export, vous avez la tentation de faire quoi ? De baisser les prix. Or, vous le savez, si vous vendez moins cher à l'exportation que sur votre marché domestique, ça s'appelle en droit du dumping. Et bien que l'Europe utilise davantage son arsenal anti-dumping. Pourquoi je pense que c'est intéressant de jouer avec les règles de son adversaire ? Parce que vous dites à la Chine, mais puisque vous dites vouloir respecter les règles de l'OMC, vous ne pouvez pas nous reprocher. Donc vous êtes inattaquable. Par contre, je ne crois pas à une sorte de protectionnisme un peu tombé du ciel, tel que celui du commissariat général au plan, où on nous expliquait qu'il fallait mettre 30% de droits de douane sur tout. On a vu d'ailleurs que sur la voiture électrique, ça n'a pas marché.
Le rapport de Thomas Grébin,
anti-dumping, ça existe. Anti-subvention, il y a une règle, anti-subvention. Déclenchons plus d'enquête. Donc, vous voyez, je crois qu'on a en fait les outils. C'est pas la peine d'inventer des nouvelles choses. On a les outils.
Il faut les appliquer. Oui, mais encore faut-il que les acteurs les respectent.
Et on pourrait même, de toute façon, si vous respectez pas, vous faites un recours devant l'OMC. Je vous rappelle qu'on a gagné au mois de juillet, La Chine a été condamnée en matière de droit de la propriété intellectuelle. Donc, tout ça existe. Mais je ne crois pas à l'idée de sortir de nouveaux instruments. Pourquoi? Parce que la Chine serait fondée pour nous dire, écoutez, vous avez mis un protectionnisme généralisé. On va mettre en place des représailles. Et qui paiera la facture? Airbus, le luxe, l'industrie laitière, etc., etc. Donc je crois qu'il faut jouer avec les règles de ses adversaires.
Pour Emmanuel Macron, l'inspiration, elle vient plutôt du côté américain. Olivier Luanci, il a dit que l'Europe devait s'inspirer de l'arsenal de défense commerciale américain en citant la section 301 du Trade Act de 1974.
Ah bah, Emmanuel a raison dans le sens où il faut activer ce qui existe déjà.
Des droits de douane ciblés, pour être clair.
Activer ce qui existe déjà. On est très mauvais sur les mesures de sauvegarde, très mauvais de demander à la chimie. La Commission européenne, à mon avis, n'a pas pris conscience de ce qui était en train de se passer sur les chaînes de valeur, alors que ces outils existent, puis après les mesures anti-dumping. Je crois qu'il va falloir aller plus loin parce qu'on a changé de monde par rapport aux années 90. On n'est plus dans le monde de l'OMC, on n'est plus dans le monde du moment où la Chine rentrait dans l'OMC, on n'est plus dans le monde de l'accord de Paris. Et donc, à partir de là, dans un monde de retour des empires, et on le voit sur la manière dont la Chine dit qu'elle veut respecter les règles de l'OMC, mais qu'elle ne les respecte pas, et on le sait depuis des décennies, dont maintenant Trump ne fait même plus semblant, enfin les États-Unis ne font même plus semblant du sujet, je pense qu'il faut changer de logiciel et qu'on aura besoin d'autres outils. Est-ce que je crois qu'il va sortir quelque chose de ce séminaire ? Non, hélas. Pour une raison très simple, c'est qu'encore aujourd'hui, l'Europe est globalement gagnante du commerce international.
Très largement.
365
milliards d'excédents la balance commerciale.
Il y a 4 ou 5 pays seulement qui sont dans notre situation. Et dans ces 4 ou 5 pays, la France est le seul des grands pays européens. Je crois qu'on partage ça avec la Roumanie notamment. Enfin, quelques-uns qui ont une balance commerciale commerciale négative. Et donc, à partir de là, ça a été très, très clairement dit, je crois, lors de l'accord du Mercosur par la présidence danoise. C'est quand même assez dingue. Un ensemble économique qui profite du commerce international et qui voudrait mettre du protectionnisme. Et pourtant, je pense simplement que la situation française, parce qu'on a choisi la désindustrialisation, parce qu'on a fait le choix de Serge Turuc dans les années 2000, n'est que prémonitoire de ce qui va arriver au niveau européen. Parce qu'avec une différence de coût réelle ou affichée de 30 à 40% sur tous les biens industriels avec la Chine, personne ne résistera. L'Allemagne,
avec une techno souvent
on
meilleure.
Verra quel sera son commerce extérieur, mais risque d'avoir de gros soucis et elle basculera, à mon avis, sur un point de vue plus celui qui est actuellement exprimé par le président de la République. Il faudra se protéger et sans doute les outils actuels de la Commission européenne n'y suffisent pas.
Allez, Jean-Marc, rapidement pour finir le tour de table et puis on va passer à...
Juste très rapidement, trois remarques. La première remarque sur je suis économiste, mais je suis protectionniste. Juste, je rappelle que le premier cours d'économie jamais professé dans une institution a été, une institution universitaire a été par quelqu'un qui s'appelait William Nassau Senior. Et il a commencé son cours par la première phrase qu'il a écrite au tableau devant les représentants du gouvernement anglais qui étaient tout plus ou moins protectionnistes. Nul n'est économiste s'il est protectionniste. C'est simple. Donc, formule qui a été reprise en
soi. Time to the challenge, comme chanté l'autre.
James Tobin, quand Attac a créé son mouvement protectionniste en faisant référence à Tobin, il a dit, surtout, ne me référez pas à moi parce que moi je suis économiste, donc, je suis contre le protectionnisme. La deuxième remarque que je ferai, c'est que, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe d'être la zone qui dégage le plus l'excédent avec la Chine sur le plan du commerce international et être celle qui réclame des mesures protectionnistes. Alors là, c'est totalement...
Beurre, l'argent du beurre, cher Jean-Marc.
Alors, troisième élément, c'est de dire, oui, mais vous allez voir, notre commerce extérieur va se détériorer. Mais bien sûr qu'il va se détériorer. Il va se détériorer, l'exemple japonais est là. C'est-à-dire que le Japon a à l'heure actuelle un déficit commercial qui est de la même ampleur que le déficit commercial français, c'est dire. Et donc, mais regardez la balance des paiements courants du Japon. Le Japon dégage 200 milliards de dollars
les bénéfices d'excédents.
Parce qu'ils sont allés chercher, effectivement, des bénéfices à l'étranger. Ils ont fait du Serge Turuc. Ils ont dit, on va supprimer nos industries parce qu'on n'aura plus personne à mettre dedans. Et c'est ma conclusion relative, c'est-à-dire que ce dont a besoin le pays, c'est pas d'usines de semi-conducteurs, c'est d'EHPAD. Je le déplore, mais c'est comme ça. Donc, on peut y vivre dans l'illusion.
Quel projet ?
Mais c'est pas une question de projet, c'est un constat. C'est-à-dire,
mais il faut se projeter.
On aura besoin d'en encore quelques jeunes quand même.
Et quand on se projette, eh bien, on constate qu'il n'y a plus d'enfants.
Faire vivre et faire rêver.
Et donc alors, on peut dire que c'est un projet, mais on constate qu'il y a eu plus de décès l'année dernière. Alors, je ne sais pas si c'est un projet, mais c'est un constat.
Allez,
il y a
très
plus
vite.
De décès que de naissance.
Très vite, la réponse d'Emmanuel, et on passe à l'encadrement de l'arrivée.
Pour dire à Jean-Marc, sa vision est un peu caricaturale. Il n'y a pas protectionniste versus libre-échangiste.
Elle est affirmée.
C'est un peu plus subtil. Et d'ailleurs,
je trouve que la critique de Tobin est assez sévère.
L'anti-dumping et l'anti-subvention, d'ailleurs, ça ne s'appelle pas du protectionnisme au sens juridique du terme. C'est de la défense commerciale contre des pratiques déloyales. Quand tu as une industrie qui est subventionnée, est-ce que c'est de la concurrence loyale?
La bonne concurrence, c'est le level playing field. Hein.
Ben
c'est
oui, tous mais oui, tu peux mettre contre le same level playing field.
Voilà.
Donc ça, c'est pas du protectionnisme, c'est de la lutte contre la concurrence déloyale. Et d'ailleurs, ça s'appelle en droit de la défense commerciale. Donc je pense qu'un protectionnisme ciblé qui met fin à des pratiques qui sont injustifiables économiquement, au premier rang desquelles la subvention publique sectorielle et le dumping, ce sont des choses qui sont relativement entendues par les économistes, fût-il libéral comme moi.
Je pense que ce débat est appelé à perdurer. Il faut qu'on avance, il est 10h09.
Juste une toute dernière remarque concernant les subventions et tout ça. D'abord, c'est du pouvoir d'achat pour nous, ces subventions.
C'est 1500 euros de pouvoir d'achat annuel.
Il faut remercier l'État chinois qui nous assure du pouvoir d'achat. Quant au fait
qui détruit des emplois.
Ah ben, il assure du pouvoir d'achat.
Il nous met en situation de dépendance.
Et le deuxième élément, c'est qu'il y a 95% des salariés à la surface de la planète qui gagnent moins que le SMIC. Donc il y a 95%, sachant que le SMIC en France est subventionné. Il y a quand même 95% des gens à la surface de la planète qui devraient demander à ce qu'on prenne des mesures de rétorsion contre les exportations françaises, parce qu'il y a effectivement du dumping de l'État français.
On n'est plus dans ce monde-là.
Y compris dans les loyers, avec l'encadrement des loyers. Est-ce que ce n'est pas une forme de dumping finalement ? L'expérimentation de l'encadrement des loyers, alors ça date de la loi Allure 2014, mais ça a été mis en place en 2018, va toucher à sa fin. C'était une expérimentation pour 8 ans, dans 6 mois, jour pour jour, l'encadrement des loyers qui s'est développé dans une soixantaine de villes aujourd'hui, quand même très largement, prendra fin. Et le débat est en train de remonter Matignon. Alors, c'était l'époque, François Bayrou avait commandé un rapport à l'Institut des politiques publiques que nous nous sommes procurés. C'est un rapport qui est remis aujourd'hui même au ministre du Logement. Et ce rapport, cette note, explique, est assez sévère sur les résultats au final. Explique que finalement, ça n'est pas efficace, que c'est plutôt coûteux et que à long terme, c'est même assez nocif, ça veut dire quoi? Qu'il faut le balayer? Enfin, ça permet quand même, dans des zones tendues comme à Paris ou en Île-de-France, de limiter les flambées des loyers, non?
Alors, il y a quand même un petit effet positif. Alors, d'abord, le résultat est annoncé.
Oui.
Jean-Marc disait, nul n'est économiste s'il est protectionnisme, nul n'est économiste s'il croit à l'encadrement des loyers.
Oui.
On va retrouver, à mon avis, dans le rapport, ce que l'on sait déjà.
C'est 2 à 4 % il y a largement futé, on connaît la lutte. Enfin, donc, non, moi, j'en ai parlé ce matin. C'est 2 à 4 % de réduction des loyers.
Il y a quand même un bénéfice, mais heureusement qu'il y a ce bénéfice, puisque c'est l'objectif même de l'encadrement des loyers, c'est dans les zones tendues, et notamment pour les personnes qui ont des moyens modestes,
oui.
Ça a permis, en effet, de limiter la hausse des loyers. Mais le problème, c'est les effets pervers. Comme en réalité, l'encadrement des loyers, elle porte sur le mètre carré. Si vous avez un très grand appartement de 200 mètres carrés à Paris, donc a priori, vous êtes plutôt une CSP+,
oui.
Vous en profitez aussi. Donc, il y a déjà un effet anti-redistributif. Mmh. Et surtout, il y a l'effet auquel tout le monde s'attendait. C'est qu'en fait, des personnes, enfin, des propriétaires retirent du marché ces biens, soit pour ne plus les mettre en location, soit pour les mettre à d'autres usages, du style Airbnb, etc. Donc, vous avez raréfication de l'offre. Et donc, l'effet pervers, c'est qu'il devient paradoxalement encore plus difficile d'obtenir un appartement. En d'autres termes, vous allez avoir une sorte de conflit insider-outsider. Celui qui a un appartement n'a plus envie de bouger, en se disant, tiens, j'irai bien peut-être à Bordeaux.
C'est ça, il y a moins de temps d'attendre, il y a moins de rotation.
Et donc finalement, vous avez moins d'offres, vous avez une mobilité plus basse, et même, à mon avis, on va trouver des résultats intéressants en termes de qualité. Puisque je ne peux pas reporter les hausses de prix, je vais en réalité moins entretenir.
Je rénove moins, oui, c'est ce qu'ils disent.
Et en plus, visiblement, il y a des mesures de contournement assez efficaces qui ont été constatées. Donc finalement, pas de secret, pas de révélation. On trouve ce que raconte la science économique pour le coup depuis 2 siècles. L'encadrement du loyer, à la fin des fins, ça fait une raréfaction de l'offre. Il y a eu des expériences à San Francisco, à Berlin, dans le Massachusetts, et à chaque fois, c'est le même constat.
C'est juste le principe même que...
Et c'est le marché.
Dès qu'on encadre les prix, il y a une pénurie.
Un rationnement.
Finalement, c'est un peu ce qui s'est passé sur le pétrole aussi, non, Jean-Marc?
Oui. Je rejoins Emmanuel sur le fait que c'est pas une surprise quand même. Et que, oui. Enfin, c'était la stratégie de Bérou, d'emmener des commissions pour retrouver des résultats élémentaires. Donc, il a fait son... il avait été haut commissaire.
Somme toute assez efficace.
Haut commissaire, il était assez haut pour que ce soit stratosphérique, ce qu'il racontait. Mais, il avait fait la même chose avec son l'affaire des retraites. Avec,
le conclave.
Le conclave sur les retraites. Bon. Alors, par rapport à juste ce que disait Emmanuel, donc, deux choses. La première chose, c'est que vous avez un économiste suédois célèbre qui avait cette formule, qui disait il y a deux façons de détruire une ville.
La guerre.
Vous la bombardez ou vous imposez un contrôle des loyers, un blocage des loyers. Et puis, une autre citation assez célèbre, le premier ministre du logement s'appelait Arthur Levasseur et il était député de l'endroit où nous sommes en ce moment. Il était député du 15e arrondissement et il a fait son discours en tant que premier ministre du logement en disant « Être ministre du logement, c'est être ministre des locataires ». Et donc Charles Gide, qui était le professeur d'économie au Collège de France de l'époque, avait dit « C'est donc être ministre
du logement, Charles.
C'est être ministre de la pénurie ». Puisque, effectivement, comme le disait Emmanuel, vous prétendez favoriser les locataires, vous bloquez les prix, et donc, à la fin des fins, vous organisez la pénurie.
Donc quoi, c'était, Olivier Luanci, un argument des politiques, finalement. Il y a une coalition hein, des maires pour l'encadrement des loyers. On voit que ça a fait fleurir.
Je voudrais élargir un peu le débat, parce qu'en fait, on a une crise du logement. Enfin, ça, c'est que la partie émergée.
En fait, c'est une mauvaise réponse à un véritable problème.
On a une crise du logement. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets industriels, je ne suis pas le seul. On essaie d'esquisser des solutions collectives sur le sujet. Je pense qu'on a une vraie feuille de route. Je suis désolé de le dire, mais sur la partie logement-bâtiment, je n'ai pas vu ce travail de fond être fait en France.
Oui.
Et ça va de la production des matériaux de construction à toute la chaîne de distribution, à la promotion, jusqu'à la location, etc. Je crois qu'on a un vrai sujet là-dessus. Et finalement, on est sur la partie émergée de l'iceberg, là. La question de la tension, donc on veut réguler le loyer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on disait, c'est on a choisi de vivre dans un monde d'efficacité économique par le marché. C'est le principe de base. Ce type de régulation va à l'encontre de ce principe. Elle peut se justifier à condition, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le logement soit considéré comme un bien ou comme un produit essentiel et qu'il faut qu'il soit accessible par tous. D'ailleurs, c'est la justification de ce type d'encadrement. Oui. Est-ce que c'est le bon outil de faire cet encadrement pour y arriver? Je suis pas tout à fait convaincu. Oui. En tous les cas, les résultats aujourd'hui pour une zone dans laquelle nous vivons tous et qu'on le voit tous les jours, c'est quand même une tension de plus en plus forte avec des gens modestes qui doivent travailler en centre urbain et qui n'ont plus les moyens d'y loger et donc ont des qualités de vie déplorables à cause de transport, etc. C'est pas ça de faire un joli projet commun de vivre ensemble.
Bon. Donc un véritable sujet, une mauvaise réponse à un vrai sujet qui demande effectivement de nouvelles politiques publiques.
Autour de cette table, considérer qu'il y a trop de logements dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a trop de logements, sauf qu'ils ne sont pas aux endroits où on les attend.
Oui.
Et donc vous essayez de vendre dans ce qu'on appelle la diagonale du vide, vous essayez de vendre l'appartement, vous ne trouverez aucun acheteur. Je rappelle qu'au moment où Alstom a voulu reconfigurer sa présence industrielle, notamment en Alsace, et a décidé de fermer une partie de son implantation à Belfort pour le porter vers le nord de Strasbourg, les ouvriers ont dit, écoutez, nous on ne peut pas y aller parce qu'on est propriétaire de nos appartements à Belfort, et c'est invendable. Et donc je pense qu'il y a aussi une réflexion d'aménagement du territoire, et surtout à l'ère du télétravail. Il y a deux choses quand même qui sont assez frappantes, c'est-à-dire que le télétravail et l'INSEE a montré dans un rapport récent que c'était plus efficace sur le plan de l'organisation économique. Donc, est-ce qu'il ne faut pas amener une solution à une réflexion d'approfondissement du télétravail? Et la deuxième chose, c'est Vinci sort régulièrement une statistique sur le nombre de gens qui sont dans les voitures qui rentrent à Paris le matin. Et donc, lorsqu'ils ont commencé, il y avait à peu près 75% des voitures où il y avait une seule personne. Maintenant, on est à 90%. Donc, au moment où on nous dit qu'il y a un problème de prix de l'essence, il y a un problème quand même qui est un problème de réchauffement climatique que nous vivons quand même en ce moment de façon très, très physique, la population continue à utiliser sa voiture de façon...
Peut-être que ça change avec le signal prix.
Et donc, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir à l'aménagement du territoire, l'utilisation de la politique vis-à-vis de la facturation des carburants, vis-à-vis de l'aménagement du territoire.
Allez, il nous reste 10 minutes, moins de 10 minutes ensemble. Il est 10h passé 18 minutes sur BFM Business, on est toujours en direct. Le dernier sujet, je voulais qu'on parle, shrinkflation. Vous savez, ce mécanisme industriel qui est que pour compenser l'inflation, on réduit les doses dans les produits que l'on vend, mais pas toujours sans le dire aux consommateurs. Et pour cela, Milka vient de se faire condamner par un tribunal allemand et c'est une première, Emmanuel Combes.
Oui, c'est une première en Europe. Alors, la shrinkflation, c'est ancien, ça a une bonne dizaine d'années. Et ce qui est intéressant pour nous, les économistes, c'est qu'on voit les études académiques sortir. Il y a une étude là de 2025 ou 2026 qui montre. Alors, c'est pas tous les producteurs qui font cela, c'est très ciblé sur typiquement les achats du quotidien.
Oui, on l'a quand même pas mal vu dans les supermarchés.
Céréales, produits détergents, etc. Par exemple, aux États-Unis, il y a une étude très intéressante qui montre que c'est à peu près 2% des produits. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement la quantité, c'est la hausse de prix implicite. Parce que si vous réduisez les quantités sans bouger le prix,
le même prix
ça revient en fait à faire monter le prix.
Mais souvent, c'est les deux d'ailleurs. C'est ceinture et bretelles. On réduit et on augmente le prix.
Ça équivaudrait, sur les statistiques, à une hausse de prix de 12%. Je veux dire, c'est énorme.
Eh oui.
Alors, c'est là que ça devient intéressant.
C'est de l'inflation cachée.
Parce que si je vous annonce que votre paquet passe de 10 euros à 11,20 euros, 12%, ou 12 euros plutôt, vous allez me dire, mais non, 11,20 euros, vous allez me dire, mais attendez, moi, je vais changer de producteur. Eh oui. Parce que c'est visible.
Eh oui.
Donc, quand j'augmente les prix de 12%, je sais que je vais le payer parce que la demande est ce qu'on appelle élastique. Dans les biens de grande consommation, l'élasticité de la demande, je ne veux pas être trop technique, c'est à peu près 1,2, moins 1,2. Si j'augmente les prix de 10%, je perds 12% de clients. En clair, je fais gaffe avant d'augmenter les prix. Par contre, la shrinkflation, certes, je vais afficher le prix au kilo, mais comme le consommateur ne regarde pas, je ne suis pas sanctionné. Et donc, ce que vous montrent les études économiques, c'est que l'élasticité à la taille, en clair, quand je réduis la taille de 10%, je n'ai strictement aucun effet sur
aucun
les ventes.
Effet.
Quasiment aucun effet. Donc, je me mets à la place d'un producteur, je me dis, mais j'ai plutôt intérêt à augmenter les prix en baissant la taille, en baissant les volumes, parce que le consommateur est complètement myope. Donc, vous voyez, c'est une pratique quand même assez trompeuse. Enfin, du point de vue du droit, c'est ce qu'on appelle une pratique commerciale trompeuse. Oui. Mais on comprend bien l'intérêt, l'incitation qu'il y a à faire ça, parce que justement, le comportement du consommateur est complètement différent lorsqu'on lui présente un prix facial et lorsqu'on lui présente un prix au kilo. Donc, il y a une incitation naturelle. Après, la question, c'est pourquoi toutes les entreprises ne le font pas? Et à mon sens, elles ne le font pas parce qu'elles se disent que c'est peu probable qu'elles soient détectées. Qui va aller regarder le prix au kilo? Enfin, en tout cas, pas moi. Par contre, le jour où elles se font détecter,
ah oui.
Le jour où il y a une campagne qu'on fait, ce qui se passe en Allemagne avec cette fameuse marque de barres chocolatées, là, je ne vous dis pas l'effet sur la réputation. Donc, c'est intéressant, pratique maligne, parce que ça permet de tromper assez facilement le consommateur, et en même temps pratique risquée dès lors que je me fais, entre guillemets, prendre. En France, je vous rappelle que l'affichage du changement de volume est obligatoire depuis 2024.
Depuis juillet 2024, ouais, vous avez une loi qui oblige tous les distributeurs français à informer les consommateurs. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir vu beaucoup d'informations sur les produits du quotidien qu'on achète dans les supermarchés. Alors, est-ce qu'on se dit que c'est la liberté d'entreprendre et qu'on maximise les bénéfices pour l'entreprise, Jean-Marc Daniel. Donc, écoutez, ils ont tout à fait le droit.
À partir du moment où les gens sont informés, s'il y a sur le prix du paquet, ce qui est intéressant, il y a deux choses pour moi. La première, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Emmanuel, et c'est un vieil résultat qui date de Keynes, les gens sont sensibles à la valeur nominale et pas à la valeur réelle du prix. C'est-à-dire que si vous avez effectivement des prix qui augmente, mais qui un salaire qui augmente moins vite, les gens sont quand même contents de voir que le salaire a augmenté. Et donc, ils ne s'aperçoivent pas que l'inflation leur a fait perdre du pouvoir d'achat, même si leur salaire a augmenté. La deuxième chose, c'est que l'INSEE s'est posé la question sur les services. Alors, comment enregistrer, par exemple, c'est un débat qui existait, les défaillances des transports collectifs. C'est-à-dire, vous payez votre ticket de métro le même prix, et puis on le voit bien maintenant à Paris, en ce moment, pour avoir un bus, il faut attendre 10 minutes. Vous avez des lignes, la SNCF, tous les week-ends maintenant, la SNCF vous annonce, donc là, c'était sur le réseau Sud-Est, 4 heures de retard.
Ah oui, jusqu'à 8 heures de retard hier.
Donc la SNCF vous rembourse une partie, mais concrètement, vous avez payé quelque chose, un certain prix, pour un service qui est très très largement inférieur,
dégradé.
Très, 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 très dégradé. Et donc, vous avez un problème qui est un problème d'identification des conséquences de la dégradation du service, quand dans le domaine purement quantitatif, c'est assez facile à mesurer. Or, il y a beaucoup de choses qui sont des choses qui relèvent du service. Au moment où il y avait la mesure de l'inflation dans les pays d'Europe de l'Est, le FMI avait mis en place un indicateur qui était le temps de queue.
Oui.
En disant que vous aviez un prix qui était affiché,
vous
aviez un prix affiché, donc vous aviez un salaire affiché, donc vous aviez un pouvoir d'achat qui était stable. Alors il disait, en réalité, ce pouvoir d'achat, il fallait mesurer ce qu'on avait
en distance
à payer sur le plan monétaire, et puis le temps qu'on avait été obligé de consacrer pour obtenir le bien en question. Il disait, il y a une inflation qui est une inflation masquée, mais qui est une inflation délirante. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir effectivement.
La Q-flation.
Voilà. Comment on mesure vraiment l'inflation?
Pas mal, avant la shrinkflation.
La Q-flation.
Olivier.
Oui. Alors, je sais que l'émission s'appelle Les Experts, mais on n'est pas experts de tout. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je pense que les autres personnes autour de la table l'ont très bien fait.
Non, mais est-ce
l'interrogation
qu'on abuse ou pas?
On a beaucoup l'interrogation parlé que j'ai, c'est est-ce que c'est le bon moyen d'action publique? C'est-à-dire, est-ce que judiciariser ce type de dérive-là?
Oui.
Et est-ce que c'est le bon moyen? Sans doute, dans les cas extrêmes, je suis incapable de dire si le cas Milka en Allemagne est un cas extrême et Emmanuel, tu l'as qualifié. En revanche, mon sentiment, c'est que dans ce type de situation, avoir des organisations de représentants des consommateurs qui font ce travail au nom des consommateurs est sans doute un moyen de régulation qu'on va dire soft, parce qu'il n'est pas par là de droit, etc., qui va toucher sur la réputation, le fameux name and shame, qui sera beaucoup plus efficace. Dans les relations sociales, on a des syndicats. On dit toujours, les syndicats de salariés n'ont pas les mêmes moyens financiers que les organisations patronales. Donc, la puissance publique a organisé de dédier des ressources aux organisations syndicales.
Oui.
C'est exactement la même logique en premier rang qui devrait jouer. Et on vient d'ailleurs de prendre, je crois, au niveau public français, une décision totalement inverse en supprimant un organisme de protection des consommateurs.
60 millions de consommateurs pour pas nommer.
Non, et mais voilà. La protection du consommateur, c'est la concurrence. Hein. Si les gens ne sont pas contents parce que Milka a enlevé 50 grammes sur leur pack de chocolat,
ils peuvent incitation à agir.
Et tu as une dissymétrie de l'information, on le voit bien. Oui. Donc quelque part, tu dois la récupérer, tu dois la compenser.
Mais oui.
Mais alors encore une fois, vous avez une vision de la population autour de vous, entre le fait que vous n'avez pas réalisé que c'est des vieux et qu'il faut les mettre dans des EHPAD et pas dans des usines.
Je vois
que les gens font leur course en disant. On se fait avoir. Si je suis comprends de rien. Heureusement qu'il y a 60 millions de consommateurs et que l'État est là pour les apporter. Non, les gens sont capables de se rendre compte de ce qui se passe.
Si je suis Jean-Marc, je vais intenter une action en justice parce que j'ai payé 12 centimes de plus mon paquet de pâtes. Ça n'est pas raisonnable.
Non, mais je ne fais pas une instance.
Donc je rejoins,
je choisis un nouveau fournisseur.
Donc je rejoins Olivier. Mais encore faut-il que tu le saches, parce que tu n'as pas regardé. Alors tu pars du principe que le consommateur a le temps de regarder.
Oui, je pars du principe que les gens ne sont pas idiots.
Bah, c'est pas qu'ils sont pas idiots, c'est qu'ils n'ont pas le temps de regarder. Moi, je suis assez d'accord.
Oh, quand on fait ses courses, on peut regarder le poids qui est sur le paquet.
Je ne t'ai pas interrompu, je peux juste terminer. Pour le coup, je rejoins complètement Olivier. Moi, je crois beaucoup aux corps intermédiaires et notamment aux actions de groupe. J'ai toujours été un partisan des actions de groupe. Quand vous avez une belle action de groupe...
Attends, on ne va pas faire une action de groupe parce que la barre chocolatée a perdu 5 grammes.
Non, vous n'avez pas compris. C'est plus compliqué que ça. C'est l'effet de signal. Le but d'une régulation, un petit mot sur la régulation. J'ai été quand même régulateur pendant 10 ans. C'est pas de surveiller tout le monde. C'est que celui qui se fasse attraper, si j'ose dire, paye pour les autres. Oui. C'est l'effet de signal. C'est quand vous êtes une grande marque et que vous êtes fait attraper, je peux vous dire que les autres, quand l'autorité de la concurrence faisait une sanction et qu'on communiquait sur la sanction et qu'on publiait une injonction à publier un extrait d'édition dans la presse,
calme tout
je
le
peux
monde.
Vous dire que ça calme tout le monde. Le but d'une loi, c'est pas de mettre un fonctionnaire dans chaque magasin pour faire des relevés de prix. C'est laisser le marché jouer et il y aura un corps intermédiaire qui s'appelle l'association de consommateurs qui fera ce boulot. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. Donc je crois qu'on a besoin de très peu de cas. Mais quand vous avez peu de cas, ça envoie un effet de signal et sa discipline, tout le monde. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Marc. L'idée n'est pas, en effet, que chacun aille en justice pour réclamer quelques euros.
Il ne s'agit pas d'aller en justice, il s'agit de changer de fournisseur. Et quand je fais mes courses, je n'ai pas besoin qu'une association de consommateurs me dise « Tu dois acheter ce produit,
tu dois regarde bien l'étiquette. » Elle te dit « Regarde bien l'étiquette. »
Regarde bien l'étiquette.
Je n'ai pas besoin que l'association me dise « Regarde l'étiquette. »
La discipline. Très intelligent, Jean-Marc.
Non, je suis normal.
La discipline dans les supermarchés et sur ce plateau. Merci. Demain, vous retrouverez les experts. Merci à tous les trois pour cette émission. Mission passionnante. Demain, les experts seront à KPME. Ne ratez pas cette émission, cette journée exceptionnelle organisée avec le MEDEF et BFM Business. KPME, on sera en direct de 7h30 à 18h à Station F avec Serge Papin. Peut-être qu'on parlera du contrôle des prix avec Patrick Martin, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités et d'émissions. Tout de suite, vous retrouvez BFM Entreprise spécial leadership animé par Sandra Gondemoin. Et quant à nous, on se retrouve demain, donc 10h, horaire spécial, 10h, 11h, en direct de Station F pour KPME. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.